Bonjour à toutes et à tous. Robert Mapplethorpe, 1946-1989. Une vie, une œuvre aura 30 ans cette année et un nouveau chapitre de son histoire s'écrit à présent avec vous sur les ondes de France Culture. Un nouveau chapitre ou plutôt la poursuite d'une aventure faite de rencontres avec des écrivains, des penseurs, des artistes, des hommes et femmes d'action et d'exception dont la fréquentation comporte néanmoins des risques. Premier numéro aujourd'hui de cette nouvelle saison avec le photographe américain Robert Mapplethorpe qui nous entraîne sur le versant sauvage du New York des années 1970 et 80 dans une époque où l'amour et le danger étaient au coin de la rue, où les PD, comme dit Edmond White, les Noirs et autres dieux grecs et romains luttaient au corps à corps dans les clubs et les bars, et sous le regard de Mapplethorpe, ce rival d'Andy Warhol, ce Man Ray amateur de viande crue, de fleurs de lys et de sexe en érection. Robert Mapplethorpe, un documentaire d'Élodie Maillot et Nathalie Battus.
Je pense que l'ouverture de ces lys et leur sensualité froide est quelque chose qui aurait très bien convenu à l'œil de Robert. Et c'est effectivement une fleur que Robert a photographiée. Malcolm a écrit une très très jolie chanson, Malcolm McLaren, dans son album Paris Paris, où il raconte... le suicide d'une femme avec l'odeur des lys. Donc c'est une fleur qui a réellement une réelle présence, ésotérique en tout cas, et puissante.
Mais est-ce qu'on sent l'odeur des lys dans ces photos?
On sent en tout cas le parfum de l'au-delà. On sent le parfum du danger, on sent le parfum de quelque chose de profond et de très intime. Même dans ce portrait final de sa dernière exposition, où il est avec cette canne au pommeau, avec un skull, il y a une construction très énigmatique dans ses œuvres, d'ailleurs plus proche de la peinture que de la photographie en général. J'ai pas le même regard que beaucoup d'autres sur le regard de Robert, parce que je crois que pour le grand public, souvent, la contemporanéité de ses photos aujourd'hui, dans sa relation aux hommes par exemple, ou dans sa relation à la sexualité, est très souvent quelque chose qui prime. Chez Robert, ce qui me fascine, c'est justement cette frontière avec l'invisible.
Une vie, une œuvre, Robert Mapplethorpe. Je m'excuse si je suis un petit peu nerveuse, mais en fait, j'aimerais vraiment que ce soit plutôt Robert qui parle à ma place. J'aimerais plutôt entendre sa voix au lieu de la mienne. Mais bon, je vais vous lire un petit extrait de Jazz Kids. C'était à l'époque où on était jeunes, près du Chelsea Hotel. C'est la fin des années 60, Noël 69.
It was Christmas time, 1969. It snowed on Christmas night.
Il a neigé ce soir de Noël. Robert et moi sommes allés jusqu'à Times Square pour voir la pancarte blanche qui proclamait « La guerre est finie, si vous le voulez ». Joyeux Noël de la part de John et Yoko. Le panneau était accroché au-dessus du kiosque où Robert achetait la plupart de ses magazines porno, entre les restos Childs et Benedict's, deux dîners ouverts toute la nuit. On était saisis par l'humanité ingénue de ce tableau new-yorkais. Robert a pris ma main, et tandis que la neige virevoltait, j'ai regardé son visage. Les années 60 touchaient à leur fin. Robert et moi fêtions nos anniversaires respectifs. Robert a eu 23 ans, puis ce fut mon tour. 23 ans, le nombre premier parfait. Robert m'a confectionné une cravate avec l'image de la Vierge Marie, et moi, je lui ai offert 7 têtes de mort en argent sur une cordelette de cuir. Il a mis le collier, j'ai mis la cravate, et nous étions prêts pour les années 70. C'est notre décennie, a dit Robert.
Not a ghost bloody country all covered with sleep where the black angel did weep. Not an old city street and ease. Gone to choose.
J'ai rencontré Robert assez tôt, en 1971.
Bob Colacello.
Ce qui était génial dans ces années 70, c'est que tout le monde se mélangeait à New York. Tout se passait dans les clubs. On y jouait du disco, de la musique noire, qui avait d'abord été jouée dans les bars gays. Et puis ça s'est propagé ailleurs. Et c'est devenu énorme, surtout dans les soirées du Studio 54, qui était d'une certaine façon une des plus grandes boîtes gays du monde, mais qui n'était pas simplement gay. Il y avait un mélange de gens très différents. Des jeunes, des vieux, uptown, downtown, gay, pas gay, tout ça. Les années 70, c'était vraiment très démocratique. Les barrières sont tombées, les barrières sociales, sexuelles, raciales.
Started to disappear. It was, you know, our generation, the baby boomer generation. We were really
nous, les baby boomers qui avions 20 ans dans les années 70, on a été la première génération qui avait été à la fac, notamment les filles, ce qui n'était pas le cas avant en Amérique.
Including all the women, and it was an affluent generation.
Pour nos parents, c'était super. L'Amérique allait vraiment bien après la Seconde Guerre mondiale.
We grew up a little bit spoiled. Drugs were new.
On est une génération qui a grandi en étant peut-être un peu trop gâtée. Les drogues étaient nouvelles, la coke est arrivée. On ne savait pas que c'était mauvais, ou que tu pouvais être accro. Donc les années 70, c'était l'âge de l'innocence avant les décennies de décadence, des cultures occidentales qu'on allait connaître après. Il y avait cette fenêtre des possibles entre l'invention de la pilule et l'arrivée du sida. Et même si tu ne ramenais pas quelqu'un tous les soirs, tu savais que c'était possible. Il y avait ce romantisme dans l'air.
New York is the thing that seduced me. New York is the thing that formed me. New York is the thing that deformed me. New York is the thing that perverted me. New York is the thing that converted me. New York's the thing I love, too. Yeah, it's my little prayer for New York.
New York, c'est là que Robert Mapplethorpe et Patti Smith sont vraiment nés, un peu après la puberté. À 18 ans, Robert laisse ses parents croyants et l'église du bout de sa rue, où il observait la seule figure nue qu'il est autorisé à regarder, le Christ sur la croix. Il quitte Floral Park, banlieue anonyme du Queens, pour éclore à Big Apple et devenir enfin lui-même. Il étudie, il dessine, il se cherche. Et à l'Institut Pratt de Brooklyn, il choisit d'abord le design pour plaire à son père, mais bifurque rapidement vers les arts et la plastique. Et puis, un beau matin de 67, il ouvre les yeux et sourit à Patty, qui atterrit par magie, là où il vit. Elle vient d'accoucher d'un garçon qu'elle a abandonné et elle arrive à New York sans un sou. À deux, ils entament une promenade vers les années 70 et composent une œuvre d'art en forme de relation double, presque gémellaire, face amitié et face amour. Patty, elle, est illuminée par la poésie, les mots et les livres. Elle vit avec Rimbaud et Baudelaire en bandoulière qu'elle lit le soir au beau et mystérieux Robert. Robert, lui, dessine, fait des bijoux et des installations. Il s'intéresse au tantrisme et prend quelques acides, mais il ne se dit pas encore artiste. Ensemble, Patty et Robert tirent le diable par la queue dans les rues de New York avant d'être épris de justesse pour le Chelsea Hotel, ce repère de belles âmes où chacun a une part de lui-même à vendre, là où les enfants terribles se dépouillent de leur candeur.
On
est arrivé au Chelsea en toute innocence, juste parce qu'on n'avait nulle part d'autre où aller. On s'est dit, on va essayer cet hôtel. Et en fait, c'était un endroit idéal pour nous, parce que tout se passait dans le hall du Chelsea Hotel. Tout le monde venait par là. On a rencontré des rockstars, des écrivains, des Tennessee Williams, et bien même un jour, Godard,
Mohamed
Ali,
Jimi Hendrix, William Burroughs,
Salvador Dali,
Janis Joplin,
tous ces gens visitaient le Chelsea Hotel. Et là-bas, nos voix culturelles se sont mêlées pour devenir enfin une réalité prête à éclore.
C'est une ville, New York. Ce n'est pas un couvent, c'est pas... Il y a une ambiance qu'on respire. Ici, à l'hôtel, et ça dure. On pouvait faire des miracles, on pouvait faire des conneries. Et du moment où on ne dérangeait personne et ne mettait pas le feu à la maison, et c'est, il y avait sûrement des choses terribles. Mais c'est dans tout hôtel, on a des meurtres, des suicides, des folies. Mais ici, il y avait toujours la création de toutes sortes. Donc, on était plutôt du côté de la vie.
On peut dire chez vous, Edmund White, on est donc à Chelsea, pas très loin du Chelsea Hotel. Est-ce que c'est un quartier qui reste mythique pour vous et pour ces années, les années vous avez, pendant lesquelles vous avez aussi rencontré Ma Pop Thorpe? Ça reste un quartier...
Ça a beaucoup changé. C'était un quartier assez dangereux et délabré à l'époque. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de lumière. Il y avait tous ces mecs sur les escaliers qui jetaient les bouteilles de bière. Et c'était même assez violent à l'époque. Nous, les PD, étaient obligés de porter un sifflet parce qu'on était souvent agressés par les jeunes qui habitaient les HLM pas loin d'ici, 9e avenue. Tout ça, c'est tellement changé. Maintenant, c'est assez snob, ce quartier. Mais dans les années 70, même au début des années 80, New York était une des villes plus dangereuses du monde, et maintenant, c'est une des moins dangereuses.
Est-ce que vous diriez... que vous êtes venu à New York pour être vous-même. Est-ce qu'on arrive à New York du reste des États-Unis pour être soi-même?
Donc, surtout pour les homosexuels de l'époque, je pense que ça c'était avant les émeutes et la liberté des homosexuels. Et on était toujours très opprimés à l'époque, sauf à New York. Et donc, c'était vraiment une population d'échappés, les gens qui ont échappé les terreurs de leur terroir.
I met Robert Mapplethorpe.
J'ai rencontré Mapplethorpe quand il a fait son film Robert Mapplethorpe se fait percer le téton.
Bob Colacello.
Et il était inconnu à l'époque. Il était avec Patti Smith, qui était elle un peu connue en tant que poète en ville. Et j'avais donc fait un article pour Village Voice sur ce film projeté au Musée d'Art Moderne. Et Robert m'a appelé après avoir lu l'article et on a commencé à se fréquenter.
Heaven and earth, good and evil.
This time, very. Lucifer was the light.
Je vivais au Chelsea Hotel à cette époque. Et je me suis dit que c'était intéressant de se faire poser un anneau sur la poitrine. Peut-être que j'avais vu ça dans un film. En tout cas, ce n'était pas très commun à l'époque. Au fond, je pense que c'est un peu bête. Mais c'était avant que j'aie la moindre notion de ce que ça représentait sexuellement. Je suis content d'avoir l'âge que j'ai, parce que ça m'a permis de traverser les années 60 en tant qu'étudiant en art. C'était vraiment le moment idéal pour vivre tous ces changements.
Il était très rock'n'roll.
Jean-Charles de Castelbajac.
Il avait une attitude rock'n'roll, il avait une beauté rock'n'roll, il avait un souffle rock'n'roll. Et en fait, chez Robert Mapplethorpe, il y avait cette passion du rock'n'roll, le CBGB que j'avais fréquenté aussi.
Grosse boîte de New York.
Grosse boîte de New York qui est maintenant devenue une boutique de vêtements. Et où passaient les groupes les plus alternatifs, comme Television, d'ailleurs dont il a fait la photo de couverture de l'album, Marky Moon. Il y avait les Ramones, il y avait Suicide qui commençait. Ce qui est très touchant dans le travail de Robert, c'est que 30 ans après, on sent encore le danger. C'est encore un brûlot, c'est encore sulfureux. Ce côté trash, hein, mais trash comme une célébration.
Je me souviens de l'avoir vu à une lecture de Patti Smith, un peu avant d'écrire cet article, ou après, je ne sais plus.
J'avais
été frappé par ses cheveux bouclés.
Il
avait l'air à la fois angélique et diabolique. On pouvait imaginer des cornes de diable poussées dans ses magnifiques cheveux bouclés, un peu comme ceux des personnages du peintre Raphaël. Il avait quelque chose de très sexy, je l'ai trouvé très attirant. Il était beau d'une façon particulière. Oui, il était très beau, très discret. Enfin, ça c'était avant qu'il soit branché sadomaso. Et rapidement, je l'ai amené à la factory, car je pensais qu'il devait travailler pour l'interview. Mais Andy Warhol ne l'aimait pas du tout au départ. Il le trouvait trop sale. Il habitait avec Patty dans une toute petite chambre à Chelsea et il n'avait pas un sou. Il prenait rarement des douches.
J'étais assez naïf, pour ne pas dire primaire. Je possédais un Polaroid et j'ai commencé à prendre des photos. Bien sûr, ma technique s'est perfectionnée avec les années, mais tout était là dès le départ. Mes premiers Polaroids traitaient de sexualité, il y avait des portraits, surtout ceux de Patti Smith, puisqu'on vivait ensemble.
Jesus died for somebody's sins, but not mine.
On parlait souvent de ce qui nous avait construit. Moi, par exemple, j'ai une éducation biblique assez forte, puisque j'ai été élevée par des témoins de Jéhovah. Et Robert, lui, était catholique. Dans les églises des témoins de Jéhovah, il n'y a pas d'image, pas de croix, pas de statue, rien. C'est vide, vide. Et il n'est question que de mots, que d'écriture. Et bien sûr, le catholicisme, c'est un univers artistique en soi, avec ses croix, ses installations, ses vitraux, ses autels. Et donc, c'était un peu comme si moi, j'essayais de mettre du désordre en essayant de remplir ce vide dans ma vie. Et Robert, lui, il essayait toujours de mettre de l'ordre. Et il disait d'ailleurs que ça lui venait de son éducation catholique, l'arrangement de l'espace. Jean-Charles de Castelbajac, rock'n'roll, vous parlez de ce souffle rock'n'roll et pourtant les photos sont très maîtrisées, très contrôlées, très organisées, très ordonnées. Il y a beaucoup d'ordre dans le rock'n'roll de Robert Mapplethorpe.
Dès les premiers albums des Rolling Stones, c'est très maîtrisé et c'est très rock'n'roll. Vous savez, je crois que dans le travail de Robert, il n'y a rien d'improvisé. En tout cas, à partir de 75 et à partir de 80, on n'en parle pas, tout est très structuré. Je me souviens la manière en 81 dont il a pris mon portrait, c'était quelque chose de très construit. Il avait prémédité. En fait, lorsque je suis allé dans son studio, downtown à New York, dans cet appartement très sombre, totalement noir, avec une étoile, d'ailleurs qui faisait partie de ses sculptures qu'il avait fait, illuminée, et puis ses assistants. Et il a fait un Polaroid de moi, mais il a fait un Polaroid de moi pour préparer la photographie et le portrait qu'il allait faire de moi. Par exemple, j'ai cru qu'en fait, il allait essentiellement m'envoyer une photo de mon visage, mais pas du tout. J'ai reçu un triptyque avec un groupe de mains d'une de ses complices Et c'était une espèce d'érection de main face à mon visage. Tout était soudain construit comme une installation, comme une sculpture, comme c'est plus de l'ordre d'un triptyque de peinture que d'une photographie, de construction presque classique dans les œuvres de Robert.
Bien, je pense que son père était très sévère et qu'il a une sorte de sévérité en lui. C'est comme toutes les personnes intéressantes, c'est un personnage contrasté.
Judith Benhamou.
C'est un homme qui avait une sorte de griserie au rapport sexuel et à la transgression des tabous, qui vient certainement d'ailleurs de son éducation catholique. Et il y a une omniprésence du bien et du mal, de la transgression jouissive. Il est vraiment là-dedans. Et c'est intéressant de voir que ce manichéisme, ce bien, ce mal, se retrouve dans la photographie avec le principe de la symétrie. Il y a beaucoup de constructions dans ces photographies qui sont en croix. La croix est extrêmement présente. Et le contraste du noir et du blanc, comme le bien et le mal. Et c'est fou, quoi. C'est fou de voir à quel point il y a un fil directeur qui serait une sorte d'idée catholique qui a bercé son enfance et qui va construire son principe esthétique. Ouais, en fait, il y a vraiment deux périodes disjointes. Du début des années 70, je crois que c'est 71, il commence avec un Polaroid. 75, il continue avec la photographie argentique. Et jusqu'en 71-79, il met au point un vocabulaire qui est extrêmement orienté vers sa gestation sexuelle, en fait. Il commence à assumer son homosexualité et certainement qu'il a besoin de l'exprimer dans son art.
Les années 70 avancent avec leur lutte sociale, leur précipité actif d'idées, de rêves et d'espoir. Mais Robert et Patty n'ont toujours pas un sou. Alors, ils quittent le Chelsea Hotel. Patty vend des livres d'art et Robert, lui, commence à vendre son corps sur la 42e rue. Il découvre les bars de meatpacking, la nuit et une autre part de lui-même. Les gens qui n'étaient pas de New York étaient abasourdis par le club et par le quartier environnant. Toute la nuit, dans les rues aux alentours, il y avait des bouchers aux tabliers sanglants qui déchargeaient des carcasses de veaux et d'agneaux suspendus sur des crocs, dans des camions frigorifiques garés sur le trottoir, glissant, puant et vernis par le sang noir coagulé. Les bouchers parlaient d'une voix forte et leurs visages rougeoyaient quand ils se penchaient sur des bidons métalliques où ils faisaient du feu pour se chauffer. Et de l'autre côté, juste là, il y avait le bar Le Mineshaft. Derrière les lumières tamisées, il y avait la partie action du club. Il y avait un mur entier de glory hole où des hommes à genoux, devant des trous à hauteur d'entrecuisses, s'activaient sur des érections anonymes.
C'est des bons souvenirs.
Si on était sobre, c'était très difficile. C'est dans City Boy. Qui est une chronique new-yorkaise et des années 60-70. Et là, je parle d'un bar vraiment extrême, peut-être le plus extrême de l'époque, qui s'appelle Le Mineshaft. Il y avait un bar pour les Noirs et leurs admirateurs blancs qui était sur au pied de Christopher Street dans le village qui s'appelait Keller. Now, et donc je suis allé avec Mapplethorpe à son bar et deux, trois fois peut-être. Et moi j'aime les Noirs, mais c'est pas un goût exclusif pour moi. Et en plus il était assez agressif et très beau, donc il avait beaucoup de chance. Hein. Moi.
Et l'endroit était comment alors?
Assez sinistre, ça allait. Et aussi, c'était la fin de l'époque de Black Power. Donc, il y a beaucoup de noirs et très peu de blancs. Et on avait le sens d'être envahisseur ou quelque chose. Pas tellement bien accueilli. Mais il aimait ça, mais pas tant. Il aimait le danger. En tout cas, Christopher Street, surtout l'été, quand il faisait beau, il y avait énormément de gens. C'était impossible pour les voitures d'entrer dans la rue parce qu'il y avait une foule extraordinaire et peut-être 95% homosexuels et jeunes. Et pour moi, c'était comme une fièvre. J'étais vraiment obsédé sexuel. Et l'idée qu'on peut avoir encore une expérience avec un beau garçon à 3 heures le matin, c'était trop tentant. Pourquoi on reste à la maison? Et bien sûr, une vie de plaisir est toujours un peu triste. Donc, on était souvent triste parce que, en effet, on cherchait l'amour et on trouvait le sexe. Donc ça, c'était une déception.
Well, I think as the decade went on, and especially as cocaine,
une fois que la décennie a avancé, et surtout quand la cocaïne est devenue si présente, les choses sont devenues un peu moins innocentes.
Bob Colacello.
Il y avait cette mode du sadomaso. Il y avait tous ces bars downtown, des bars comme le Toilet ou le Anvil, qui étaient assez extrêmes. On y allait pour mater, en tant que voyeur, parce qu'Andy voulait savoir ce qui s'y passait. Je ne sais pas si je peux raconter ça sur une radio française, en tout cas, je ne le ferai pas sur une radio américaine, mais bon. Les gens se pissaient dessus, ils se fouettaient. Vous savez, des trucs sadomaso. Moi, j'étais pas trop là-dedans, ni mes collègues de la factory d'ailleurs, mais on connaissait des gens qui le faisaient. La cocaïne, vous savez, ça libère les fantasmes, les inhibitions pour les partout, le sexe en public, tout ça. Ça devenait un peu dingue.
Group sex or public sex or, I mean, things got a little crazy.
Donc c'était une façon de faire rentrer dans le champ de la beauté ou de l'esthétique, peut-être les bars sordides dans lesquels il vous a emmené.
Il a rarement pris des photos des bars. Il a invité les garçons chez lui et souvent il a fait l'amour avec d'abord et après il a pris des photos. Il n'a pas payé énormément les garçons, sauf il a donné des exemplaires de leur portrait. Il était fasciné par les grosses sexes, surtout noirs.
En fait, Mapplethorpe, il met au point une esthétique du sexe masculin et qui, je pense, n'a jamais été fait avant.
Judith Benhamou.
Puisque à la Renaissance et dans l'Antiquité, la représentation du sexe masculin était toujours une représentation de sexe petit. C'était presque vulgaire de montrer, alors que les hommes étaient d'une puissance colossale, quand on en venait au sexe, ils avaient un petit sexe. Eh bien, tout d'un coup, Mapplethorpe les représente puissants à tous les niveaux. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ces photos, elles, ce ne sont pas des photos de désir. Il y a un autre photographe à la même époque qui est une de ses connaissances, qui s'appelle Peter Houjard, qui lui fait des photos où il montre ses partenaires ou des gens qu'il connaît dans la jouissance. Chez Mapplethorpe, c'est jamais ça. C'est-à-dire que même quand il y a sexe, représentation du sexe, des fantasmes, etc., c'est posé. On n'est pas dans l'expression de la jouissance. C'est pas ça du tout. C'est comme un témoignage. Et chez Mapplethorpe, donc, il prend les photos après avoir couché avec le garçon. Et donc... là encore, il a épuisé le désir avant de prendre la photographie.
Le sexe est magique. Si vous le canalisez bien, il a plus d'énergie dans le sexe que dans l'art.
Par exemple, dans le célèbre photo Man in a Polyester Suit,
Edmund White.
Là, il montre un sexe qui sort d'un costume et son visage. Et
il y a quand même les mains, il y a juste les mains, et le sexe d'une très grande taille, oui. Qui sortent d'un costume très chic en polyester marron. La photo est très chic, effectivement, il n'y a pas de visage, il y a juste les mains et un sexe immense.
Oui, mais vous savez que polyester est un matériel ignoble, c'est-à-dire c'est très bon marché pour les pauvres. Donc, ce n'est pas un costume chic qu'il porte, c'est un costume bon marché. Et ça, c'était un peu le critique des intellectuels noirs, qu'il a montré un noir dans un costume pas chic. J'ai dit que j'admire ces photos. Et il disait non, ils sont très déshumanisés. Et moi, j'ai dit, mais ce photo-là était de son amant Milton, qui a insisté qu'il ne montre pas son visage avec son sexe parce que sa mère ne savait pas qu'il était pédé. Donc, c'était exactement le contraire de ce discours politically correct de l'époque.
Il y avait cette glorification des hommes noirs et ce mythe de leur gros pénis.
Bob Colacello.
Mais ce qui était formidable avec Robert Mapplethorpe, c'est d'abord qu'il était excellent techniquement. Et puis il a encadré ses sujets d'un univers et d'une approche iconographique classique. Les poses, tout était en un sens dans une esthétique très gréco-romaine, mais à la fois très explicite sexuellement. Et puis il y avait tous ces noirs, et à bien des niveaux, c'était révolutionnaire. Mais surtout, Robert était avant tout un artiste, et c'est pour cela que ces images peuvent être interprétées de mille façons, tout comme les œuvres d'Andy Warhol. On se dit, est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est du premier degré ? À mon avis, c'est les deux.
Mais c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, je pense que l'acte pour un blanc aux États-Unis de regarder un noir est toujours troublé. C'est jamais simple. Donc, je pense pour Mapplethorpe, parfois les noirs étaient comme des figurines à nouveau. Parfois, ils étaient comme les machines à plaisir. Donc, il n'y a jamais un regard simple, nu, dévoilé, admiratif.
Candide.
Candide, oui. Par un blanc de noir. C'est toujours troublé. Et il enregistre dans ses photos ce trouble. Il était parmi les premiers qui a exalté le sujet de pornographie, sexualité et surtout de sadomasochisme au niveau de l'art. C'est-à-dire, ils étaient très beaux, les photos. Les noirs étaient magnifiques. Les noirs, les blancs, le contraste, tout était réfléchi, pensé, tout était soigné. Et évidemment, il a pris très au sérieux ces photos. Et ça, c'était nouveau.
Il faut quand même oser se prendre en photo de dos avec un fouet dans les fesses, qui rajoute une queue et qui vous donne un air de diable. Et en plus, vous montrez au spectateur, au regardeur, les fesses au premier plan, avec quelque chose à l'intérieur. C'est la transgression d'un tabou total, quoi. Et il a des oppositions en lui, c'est-à-dire que même dans son emploi du temps quotidien, on voit ça. Il se lève très tard, il travaille, il voit ses amis dans la journée, mais il travaille beaucoup dans son studio. Le soir venu, il va dîner avec des gens souvent chics de l'Upper East Side. Puis, deuxième partie de soirée, c'est très chaud. Donc, club gay, hard, avec des partenaires changeants fréquemment. Ce qui n'empêche pas de grandes histoires d'amour, évidemment. Mais il a une obsession du désir physique et du rapport physique.
It was a feeling I could get through looking at pornographic imagery that I thought had never been apparent in art.
En fait, tout ça était très égoïste. Je cherchais avant tout à me faire plaisir, avant de penser au public. J'ai toujours été étonné que ça puisse choquer. Parce qu'une fois que j'avais vécu la scène et pris la photo, ça n'avait plus rien de choquant pour moi.
Once Robert started telling me stories about...
Quand Robert a commencé à me parler d'histoires de gens attachés comme des chiens en laisse, là, je me suis un peu éloigné. Il était très impliqué dans ce truc, le cuir, je veux dire, le monde SM, et tous ces mecs habillés en cuir, des pieds à la tête.
Alors,
on ne s'est pas fâché, mais on se voyait moins. Et puis, il s'est mis avec Sam Wagstaff, ce qui était une bonne chose pour lui, car Sam était l'un des plus grands collectionneurs de photos au monde.
Il avait une allure absolument incroyable. Il avait une allure, il aurait pu être acteur à Hollywood, comme Gary Cooper. Il y avait cette élégance américaine qui n'est ni l'élégance française, ni l'élégance anglaise, mais ce cool, quoi, ce cool. Et c'était un peu un héros, parce que c'était un pionnier, c'était vraiment un pionnier. Et Sam Wagstaff, non seulement ça, mais avait vendu toute sa collection d'art contemporain, qui était manifeste, majeur et tout, pour acheter de la photographie. C'est vraiment la démarche d'un homme extrêmement courageux et d'un pionnier.
Il a quelque part intégré à sa collection l'œuvre de Robert Mapplethorpe. Il l'a légitimé aussi.
Plus que ça, il l'a légitimé, bien sûr, mais il l'a aussi mécéné. Il l'a porté, il l'a accompagné, il y a cru, il en était passionné. Et quand on les voyait ensemble, on pouvait penser aussi au père et au fils, effectivement.
Vous avez une grosse différence
d'âge. Oui, je ne sais pas, mais il devait bien avoir 20 ans, 25 ans. Et c'était très touchant.
Est-ce qu'il avait l'ambition de réussir ? C'est quelqu'un d'ambitieux ?
Extrêmement ambitieux. Il est, à ce titre-là, il est complètement fasciné par Warhol. Il le prend comme le symbole de la réussite et il est fasciné par sa technique de réussite. Avec son modèle de pipolisation, de fréquentation des gens riches. Il adore ça, il veut réussir. On est chez un personnage américain, il n'y a pas le tabou français de « on fait ci, on fait pas ça, on dit ci, on dit pas ça ». Non, il veut réussir, donc il fréquente les gens qui vont l'aider à réussir. Il y a une époque, c'est presque une faute de goût à New York si on n'a pas son portrait par Mapplethorpe.
Quelques années plus tard, quand Robert est devenu célèbre, Andy a commencé à l'apprécier et ils se sont échangés des portraits. Mais Robert n'aimait pas trop traîner avec Andy au début, car il avait peur qu'il lui pique ses idées. Il me disait toujours, Andy te pique tes idées, il va faire pareil avec moi. Mais quand même, il a fait quelques piges pour le magazine Interview. On a même été le premier magazine à publier ses photos. Mais à l'époque, on ne payait que $25 la photo, donc parfois de grands photographes nous donnaient quelques images, mais la plupart du temps, on devait découvrir nous-mêmes de nouveaux talents.
Mapplethorpe, c'est quelqu'un qui s'est entièrement construit en termes esthétiques, en termes de personne, qui est devenu un personnage complet, complètement fascinant. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est-à-dire les parties de Floral Park, tout seul, le petit garçon chétif et un peu mal aimé. Son père ne l'a jamais assumé. Quand le fils est mort du sida et qu'on vient interviewer le père et qu'on lui demande « Est-ce que vous êtes fier de l'œuvre de votre fils ?» Il dit « Il a fait de belles fleurs ». Donc je pense que toute sa vie, pour le fils, cette idée de ne pas être reconnu par le père, ça a été un fardeau énorme. De ne pas être la fierté. Et en même temps, il est très provoque, parce que quand par exemple il va voir un marchand et qu'il lui montre ses photographies, les premières photos qu'il montre, c'est les photos de sexe hard. Donc il est à la fois provocateur, il veut qu'on l'aime pour ce qu'il est totalement. Et je pense qu'aujourd'hui, certaines personnes ne veulent voir chez lui que le côté sexuel. Je pense que c'est une erreur fondamentale. C'est un artiste qui évolue et il y a les deux aspects chez lui, les aspects 71-79, c'est-à-dire sexe à fond, homosexualité, et une deuxième partie qui dure longtemps, 79-89, où là, il met en place une esthétique épurée et qui est absolument fascinante et qui ressemble dans certains cas des choses qu'on a vues ailleurs. Par exemple, il y a des similitudes avec la production de Man Ray, de manière confondante, mais il brasse la culture photographique avec une maestria folle. Il sait, il connaît. Et c'est un grand artiste, et c'est un grand artiste parce qu'il y a ces deux aspects chez lui. Il était homosexuel et il était à certains égards sulfureux, et pourquoi pas. Mais il est beaucoup plus que ça. C'est un artiste complet. À partir de 79, il a, semble-t-il, épuisé le sujet et il met au point un vocabulaire qui est un vocabulaire quand même sexué, mais qui est un vocabulaire néoclassique jusqu'en 89, date de sa mort, et qui est... encore plus symétrique, encore plus géométrique, encore plus construit, et vraiment qui fait référence à la sculpture en photographie.
Il a toujours dit tout au long de sa carrière que s'il était né un siècle ou deux auparavant, il aurait été sculpteur.
Hélène Pinet.
Donc déjà, il y a une revendication de la part de Mapplethorpe de cette volonté de sculpter. Et on voit bien qu'il... Il sculpte les corps, enfin, il recherche avec ses jeux de lumière, il veut vraiment traduire un effet de volume et puis aussi une recherche dans les textures, on voit la lumière qui souligne la douceur des peaux, la rugosité des matériaux qu'il photographie. Donc il y a une sensualité que l'on retrouve sur ces images malgré tout, malgré cet effet parfois un peu froid, justement ce sont des photos très posées, très cadrées et on sait qu'il n'appuyait sur le déclencheur plutôt qu'une fois vraiment que l'image qu'il voyait dans son objectif était exactement ce qu'il souhaitait, quitte d'ailleurs à retoucher parfois même sur le tirage quand il y avait des petits défauts qui le contrariaient. Il fallait que tout soit absolument parfait. Ça, c'est, il ne laissait pas la place à l'improvisation et puis même au moment du résultat, là, comme beaucoup de photographes d'ailleurs, mais on n'imagine pas de Mapplethorpe alors que c'était vraiment le cas.
Pourquoi on n'imagine pas ?
On n'imagine pas parce que d'abord, ces images sont déjà tellement parfaites que ce n'est pas quelque chose que l'on a à l'esprit. On a l'impression qu'il maîtrise tout en amont et qu'il n'a pas besoin de retoucher. Mais ce n'est pas le cas. Il est comme tous les photographes, malgré tout. Collectionneur de photographie à une époque où peu de gens l'étaient, et encore moins des artistes, et encore moins des photographes. Donc vous voyez, il a un côté vraiment précurseur dans ce domaine-là. Donc il avait véritablement un œil et ce sens de l'histoire de la photographie.
He was a very careful collector of.
C'était un grand collectionneur de meubles.
Michael Stout.
He was a collector of art vers des années 40 et 50 d'Italie et de Scandinavie. Il collectionnait les objets religieux aussi.
He collected images des images du diable. He had important.
Il possédait de l'art contemporain.
He had some very good paintings. He had works by Warhol that he traded with Warhol.
Des peintures qu'il avait échangées avec Warhol. Des dessins de James Ensor. Il avait beaucoup de belles choses.
Il était très collectionneur et très érudit.
He was very interested in
design. Oui, il s'intéressait aussi au design. Je me souviens que la vente du patrimoine de Warhol a rapporté 22 millions de dollars, ce qui représente une fortune. Celle de Mapplethorpe, 11 millions, je crois.
And then everything kind of came to a crash.
En fait, tout a commencé à s'écrouler dans l'univers gay avec cette hécatombe, cette étrange maladie qu'on a d'abord appelée le cancer gay. Les gens avaient des boutons partout sur la peau, ils mouraient les uns après les autres. Surtout les gays et les gens du monde de l'art et de la mode. Et là, les gens ont vraiment commencé à flipper et à faire attention à leur fréquentation et leurs pratiques sexuelles.
Mapplethorpe a été diagnostiqué séropositif en septembre 1986. J'étais à Genève à l'époque. Il m'a appelé et il m'a demandé de rentrer vite parce qu'il pensait qu'il allait mourir. En 1986, les gens qui contractaient une pneumonie mouraient généralement en 4 à 5 jours. Alors je suis rentré d'urgence à New York, mais il a guéri. Et il a même survécu presque 3 ans. Lorsqu'il m'avait appelé, il m'avait dit « Je veux faire ton portrait avant de mourir ». Je dis non, je ne suis pas intéressé. Mais il a insisté. Et vu les circonstances, j'ai fini par accepter.
There's parts of the story that are amusing. First of all, he used to make jokes about my always being.
Il faisait souvent des blagues sur mes régimes car je suis gros. Et il m'a donc demandé d'apporter une chemise de rechange. Car les gens trop gros tâchent souvent leur col.
So I was coming at the end of my workday, like at 6 o'clock or 7.
Alors le lendemain, de retour de mon boulot, on a fait la photo.
Et
j'ai pris une chemise de rechange.
The next day, I had an invoice for $5,000.
Le lendemain, j'ai été surpris de recevoir une facture de $5,000. Parce que j'avais pas commandé ce portrait.
So I called him, and he said, interestingly, he said.
Je l'ai appelé et il m'a dit « Je paye tes honoraires, alors paye mes factures. » J'ai dit « Bon, d'accord. » L'argent, c'était important pour lui. Lorsqu'il était malade, même s'il ne pensait pas qu'il allait mourir, il me disait « Si je meurs, est-ce que je mourrai aussi riche qu'Andy Warhol ?» Je disais « Non, et de loin. » Mais ça l'intéressait. Il appelait son marchand d'art tous les jours pour savoir ce qui avait été vendu, à combien. Et il s'intéressait à tous ses investissements que je supervisais. Ses actions en bourse, ses comptes en banque. Mais Mapplethorpe était très ordonné et précis sur tout. Sa comptabilité était impeccable. Quand j'ai été nommé avocat pour la succession de Basquiat et que je suis rentré dans son atelier, j'ai été surpris par le bordel. Il a fallu des semaines et des dizaines de gens pour tout inventorier et savoir si l'électricité avait été payée. Mapplethorpe, lui, était très ordonné. Il a su s'entourer de gens très bien. Il était très précis et ça se voit dans son travail. Il n'y a rien d'accidentel ni de documentaire. La forme est très précise.
Sam Wagstaff meurt en 87. À ce moment-là, son business de photographie marche bien. Plus cet argent, il a vraiment du fric, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est un homme qui n'a eu de cesse d'évoluer dans le raffinement et dans le luxe. Il a toujours eu envie de gagner beaucoup d'argent et de vivre dans le luxe. Je pense qu'il a profondément souffert de sa pauvreté. Une des dernières photos, c'est un autoportrait qui le montre en pyjama de soie, avec une robe de chambre, et il a des pantoufles, des mules, de velours brodé de couronnes dorées. Donc le message est là. Enfin, il n'est pas. Mapplethorpe, c'est pas Patti Smith, quoi. C'est pas un éternel baba du tout. Hein.
C'est un dandy ?
Complètement. Dandy dans son genre. Hein. Un dandy un peu rock'n'roll comme ça. Des tas de bagues avec des têtes de mort. Mais il a mis au point, y compris dans sa tenue, une esthétique particulière qui lui est propre.
Est-ce que vous diriez que dans la démarche de Mapplethorpe, dans cette photo par exemple, il y a un éclair de dandysme au sens où Baudelaire le décrit comme le dernier éclat d'héroïsme des décadences? Est-ce que quelque part, dans ce sens-là, Mapplethorpe était un dandy et ses modèles aussi, dans le sens où ils devenaient des héros dans un pays où ni les Noirs ni les ouvriers n'étaient des héros?
Je pense... Un dandy commence par niveler toutes les valeurs de la société. Donc il y a les valeurs sur ces gens sont riches et bien, et ces gens sont pauvres et pas bien. Ça c'est beau, le caniveau n'est pas beau, la fleur est belle et tout. Et le dandy, je pense, commence de créer son propre échelle de valeur. Il valorise le caniveau, comme Baudelaire l'a fait, la boue, et il a moins respect pour les aristos, les riches. Et Mapplethorpe était un dandy dans ce sens-là. Je pense qu'il a créé ses propres valeurs.
Il y a toujours cette chose absolument troublante et absolument magnifique, c'est la détermination à travailler jusqu'au bout. La détermination à produire. Il y a une espèce de défiance. Voilà.
Plutôt que de jouir de la vie qui s'en va.
Plutôt que de dire, vous savez, comme lorsque les gens font leur dernier vœu, qu'est-ce que tu ferais tes dernières 24 heures, ben, je boirais du champagne, ou je ne sais pas, ou je verrais ma famille. Là, il y a des êtres seuls, qui sont seuls avec leur œuvre, comme si leur œuvre, à un moment, était leur famille.
Je
savais qu'il n'était pas très proche de sa famille, mais à la fin de sa vie, il a voulu voir sa mère. Juste avant qu'il ne perde conscience, le dernier jour, sa sœur est venue le voir et ça l'a beaucoup touché. Et c'est là qu'il m'a demandé de veiller à ce que tous les membres de sa famille reçoivent une œuvre de leur choix. Mais il était coupé de sa famille. Pas parce que c'était des gens horribles, hein, c'est juste qu'il n'avait pas suivi le même chemin. Ça faisait partie de sa vie.
Ils
n'avaient juste pas grand-chose en commun. C'était des gens religieux, catholiques, d'origine irlandaise, qui vivait dans une banlieue middle class. Il n'avait juste pas les mêmes valeurs, ni les mêmes objectifs.
Je pense que Mapplethorpe et moi, par exemple, ont voulu échapper à la vraie famille. C'était justement des autres rapports nouveaux, inventés. C'est-à-dire qu'on était moins bourgeois que les gens maintenant. On avait... fuck buddies, copains de cul, on peut dire, peut-être. On avait beaucoup de gens différents dans la vie. C'était la vie homosexuelle avant le SIDA était comme une grande molécule avec beaucoup d'atomes différents.
Est-ce que vous pensez que quelque part, Robert Mapplethorpe, en vous choisissant vous et d'autres, s'est reconstitué sa propre famille ? Est-ce qu'il était à la recherche de se constituer une famille choisie ?
Cette idée de frère choisi et de coup de foudre amical ou même au-delà d'amical, parce que c'était des coups de foudre sur le travail aussi. J'ai eu avec Cindy Sherman pour ses premières photos de mode. C'est très lié à une famille, oui, c'est très lié à une famille élective. Par exemple, un soir à New York, j'évoquais le travail de Robert Longo, qui était un artiste qui faisait des drapeaux américains sombres, noirs, au charbon. Et j'avais très envie de faire une robe comme ça. Donc j'ai fait le croquis d'une robe drapeau américain qui serait une sorte de gonfanon, c'est les étendards du Moyen-Âge, un peu de deuil. Et Robert a beaucoup aimé, donc je suis rentré à Paris, j'ai fait faire cette robe. C'est une robe que j'ai fait en satin et en voile ou en organza noir. Et Robert m'a dit, je veux cette robe et je veux la photographier sur Lisa. Lisa Lyon, qui était plus qu'un modèle, hein, qui était à mon avis les deux femmes de sa vie, ça a été Patti Smith et Lisa Lyon. Il y avait cette vraie complicité entre les deux, c'était deux étapes très importantes dans sa vie. Et j'ai vu cette photo naître du dessin. Enfin, c'était un acte de création. Et c'est ce que j'aimais, c'est cette espèce de ciment de complicité.
Et lorsque vous voyez cette photo, par exemple, une manouette, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous reconnaissez cette photo de Mapplethorpe ?
Oui.
On le voit.
Je pense la photo était prévu comme la photo à l'entrée de la dernière exposition de son travail au Whitney Museum. Où je pense qu'il a assumé la mort, c'est-à-dire, et la maladie, Et là, il a une tête de mort sur une canne, comme la pommette d'une canne, dans son main, et son visage beaucoup vieilli et aminci et ravagé par la maladie. Et il était courageux. Il a assumé la maladie. Non, il n'était pas comme une star hollywoodienne qui voulait cacher sa maladie. Il était très, on dit en anglais, in your face. He was very in your face. Il a toujours voulu affronter les gens. Non, c'est très puissant. Et très honnête. Je pense qu'il était un homme très honnête.
Est-ce qu'il a plus parlé de Dieu, de religion à la fin de sa vie?
Non.
Non.
He didn't believe that he would die.
Il n'a jamais cru qu'il allait mourir, sauf le dernier jour.
Really the last day. There were times when he was very sick.
Il y a eu des moments où il était très mal, où il a voulu voir sa mère. Des moments où il a voulu qu'on retrouve Patty Smith, qui avait disparu de sa vie pendant une dizaine d'années.
There was a time when he, you know, had sentimental.
Il y a eu des moments où, pour des raisons sentimentales, il a dû dire aux gens qu'il était malade. Mais rien sur Dieu, même s'il a voulu revoir le prêtre de son enfance. Un prêtre dont il se sentait proche. Et c'est son frère qui lui a permis de le voir. Tout le monde a peur de mourir. C'est pour ça qu'on a des religions.
And religions.
And art.
And art.
Et l'art.
Somehow, I was able to pick up the magic of the moment and work with it. You know, that's my rush in doing photography. You know, it's like, you know, it's like you get to a place and you can do it with a flower, you can do it with a cock, you can do it with a portrait, where it's really kind of like you don't know why it's happening, but it's happening. You've like somehow tapped into a space that's magic.
C'est bien que ce son soit de retour, parce que. C'était un son disparu, hein. C'est comme le chant des baleines. La dimension magique du Polaroid fait un peu rebondir sur ce que je ressens du travail de Robert, qui était quelque chose que je trouvais infiniment ésotérique. Ce qui nous liait avec Robert, c'était un amour immense de la photo. Pas de la photo comme juste cristallisation du présent, mais de la photo comme orée de l'invisible.
Une vie, une œuvre, Robert Mapplethorpe.
Je crois qu'elles ne sortent pas, mes photos. Mais c'est peut-être ça, le sens de ces photos aujourd'hui, c'est qu'elles soient noires.
Non, parce que c'est, vous savez, c'est des nouvelles pellicules. Si elles sortent tout doucement. Tout doucement.
Merci à Jean-Charles de Castelbajac, à Patty Smith, à Bob Colacello, à Edmund White, à Judith Childs, à Hélène Pinet du Musée Rodin à Paris, à Michael Wallstone de la Fondation Mapplethorpe à New York, à Judith Benamou-Huet, auteure de « Dans la vie noire et blanche » de Robert Mapplethorpe. Merci aussi au Musée Rodin et au Grand Palais à Paris, particulièrement à Jérôme Neutre, à Florence Lemoyne et à Svetlana Stojanovic, avec des textes issus du livre de Patty Smith « Just Kids » et « City Boys », chronique new-yorkaise par Edmund White aux éditions Plomb. Une vie, une œuvre. Attaché d'émission Laurence Jeunepin, prise de son Benjamin Vignal, mixage Olivier Dupré, réalisation Nathalie Battus, une émission proposée par Élodie Maillot.
C'était Une vie, une œuvre, consacrée cette semaine au photographe américain Robert Mapplethorpe. Réécoute, podcast, commentaires et compléments sur la page de l'émission sur franceculture.fr. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, le sociologue et philosophe Jean Baudrillard. Et c'est maintenant le temps des écrivains avec Christophe Onodibio, votre nouveau rendez-vous littéraire sur France Culture.